Le chien a dormi tout le temps du voyage. Aucune annonce d'arrêt ne l'a fait broncher, jusqu'à ce que le mot Deauville résonne dans le haut-parleur. Il s'est levé aussitôt. Il est allé se poser en faction devant la porte du wagon. Sur le parvis de la gare, il tombait un crachin froid dans une chaleur d'orage. D'emblée, Jules a bifurqué à droite, côté Trouville, pour me faire traverser le pont qui enjambe la Touque. Il a remonté le quai, la truffe au ras du sol, la queue vibrante et l'aboiement prompt quand le trottoir ne se dégageait pas assez vite devant nous. Tout ce que je connaissais de la Normandie, jusqu'à présent, c'était la zone industrielle de Caen, où se trouve l'un des centres de production vert de Green qui retraite la chabazite en aliments porcins. Les façades à colombages dans l'odeur de marée vaseuse me dépaysaient grandement. La mer, pour moi, c'était le golfe Persique, Singapour et Dakar au temps des ambassades de mon père, puis le camping au Gros du Roi lorsqu'il avait divorcé pour cause de nomination à Washington, où la carrière d'un diplomate s'accommode mal d'un fils d'origine syrienne. Dès que j'avais eu l'âge et les moyens de partir seul en vacances, j'avais choisi les sports d'hiver pour me démarquer, offrir à mes premières amours des souvenirs vierges. L'excitation de Jules et sa vitesse augmentaient à mesure qu'on approchait de la plage. C'était visiblement son endroit préféré. Ou bien c'était la présence d'Alice qui, localisée, lui faisait oublier qu'il avait charge d'âme au bout de sa laisse. Je tamponnais tous les 3 mètres les passants à coups de sac à dos, victime de ses zigzags, heurtais les étals et les poteaux sans qu'ils s'en émeuvent, le moins du monde. Alice se trouvait-elle dans une maison de famille? Une location? Un hôtel? Il s'est arrêté devant le Kyriade, un 3 étoiles lugubre face au parking du casino, mais c'était juste pour lever la patte sur le pneu avant d'une Ferrari. Vu la ligne surbaissée du véhicule, son jet de pipi a servi de lave-glace. Mission accomplie, il a traversé la place à fond de train, longé sans s'arrêter la façade du palace en finition qui jouxtait le casino barrière, et s'est engagé sur le chemin de planches ensablées qui séparait le front de mer du terrain vague brumeux planté de tentes multicolores. Slalomant entre les cirés, les poussettes et les parapluies, il a encore accéléré. Torse en arrière pour le freiner, je me tordais les chevilles entre les planches. Percutant de plein fouet un surfeur, j'ai lâché la laisse. Le temps d'essuyer ses injures, de m'excuser et de le soulever du sol pour qu'il arrête de me secouer, Jules avait disparu. Il m'attendait au coin de la rue suivante, devant l'entrée du Flaubert, un petit hôtel néo-normand cerné de goélands qui patrouillaient face mer et d'étourneaux piaillant dans les platanes côté rue. Un couple d'amoureux poussait la lourde porte vitrée en essayant d'ouvrir un parapluie. Jules a foncé entre leurs jambes. J'ai demandé pardon pour lui et je suis entré dans le hall au moment où une ample dame à chignon gris blond quittait son comptoir, bras tendu.
« Mais c'est mon Julot ! Mais qu'est-ce que tu fiches là, brigand ?»
Le chien lui a sauté au cou. Elle l'a enserré dans une prise de catch et ils ont tournoyé en jouant à la bagarre pendant 30 secondes avant qu'elle s'aperçoive de ma présence. « Monsieur ?» a-t-elle demandé en lâchant le labrador d'un air sourcilleux. J'ai précisé que j'étais avec lui. Aussitôt, son visage s'est illuminé.
« C'est pas vrai ? Ah, je suis ravi ! Mais pourquoi Alice ne m'a pas prévenu ? La résa est pour demain soir. Bon, ça fait rien, à la 22, j'ai des Allemands qui n'arrivent qu'à 20h, je les bascule à la 33 et hop !
Elisabeth Lipins, enchantée. Vous ne serez pas déçus, hein. Ils annoncent un juillet d'enfer. Ne vous fiez pas au crachin de tantôt, hein.
« Vous êtes un faux maigre, dites donc, joli biscotto, hein. Je la comprends, mon Alice. »
J'ai remercié d'un air modeste, tandis qu'elle continuait de m'écraser les phalanges en me pétrissant le biceps de la main gauche. Avec son bagout et la bonne franquette, on l'aurait davantage imaginé dans une taverne flamande façon Brel que dans un 3 étoiles feutré de la Côte Fleurie. J'ai ôté mon sac à dos pour abréger les effusions.
« Sans vouloir critiquer, » a-t-elle ajouté avec un clin d'œil entendu, « ça me fait rudement plaisir de l'avoir avec quelqu'un comme vous. »
J'ai réduit mon sourire d'un cran. C'était de l'antiracisme primaire. Comme chez ces bobos bien pensants des cabinets de chasseurs de tête qui s'empressaient toujours de me rassurer, mon problème sur le marché de l'emploi n'était pas dû à mon faciès, mais à mes diplômes. J'étais surqualifié, trop vieux pour me trimballer un tel bagage.
« Elle est restée dans la voiture ? Je vous ouvre la barrière du parking, voilà. Allez vite vous garer avant qu'il repleuve, je vous envoie Lucas pour les bagages. »
Improvisant par étapes face à la situation, je lui ai répondu que nous avions pris le train, Jules et moi, Alice viendrait plus tard. Elle a reculé d'un pas, surprise, puis carrément soupçonneuse.
« Et comment elle fait pour venir si le chien est là? C'est quoi cette embrouille ?»
Comme s'il sentait le vent tourner, Jules s'est enroulé autour de mes jambes avec une affection ostentatoire. Alors j'ai annoncé à l'hôtelière la bonne nouvelle. Alice voyait de nouveau, grâce à une opération de la cornée. Elle est restée bouche bée, tournée vers le labrador, puis s'est penchée soudain pour l'asticoter en lui muselant la truffe.
« Mais c'est génial! T'as plus rien à faire, dis donc, mon coco! C'est la quille !»
D'une moue gênée, j'ai tenté de lui faire comprendre qu'elle appuyait sur un point sensible. Elle s'est redressée en s'aidant du comptoir, m'a tendu gaiement une petite clé au bout d'un gros champignon en laiton.
« Bienvenue chez vous, il connaît le chemin. »
Ah non, ça me flanque un sacré coup qu'elle soit plus aveugle. 5 ans que je la vois toute perdue, la pauvrette, quand Julot va faire les 400 coups sur la plage. D'accord, c'est ses vacances à lui aussi, je me mets à sa place, mais ça me fendait le cœur, moi, une fille si jeune. Et l'autre, qui passait son temps à la roulette. Faut croire qu'il y a un bon Dieu de temps en temps, hein. Je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur, tandis que Jules grimpait l'escalier à fond de train. Imaginant mal le labrador en train de pousser des plaques sur un tapis vert, je déduisais de l'avant-dernière phrase qu'Alice fréquentait un joueur. Ma présence sur son lieu de vacances prenait tout à coup un tour nouveau, des plus gênants. Je n'avais pas songé un instant qu'une ex-aveugle privée de son chien n'a aucune raison de se consoler toute seule. Je m'en étais tenu à l'avis de son vétérinaire.
À ma connaissance, il n'y a pas d'homme dans la place.
Mais, surtout, je m'étais laissé influencer par les certitudes impétueuses de Jules, qui jouait les marieurs sans souci des dommages collatéraux. Comment me sortir de cette situation? Très clairement, la patronne nous considérait comme le nouveau mec d'Alice, qui avait réservé pour 2.
Sans vouloir être curieuse, a-t-elle repris en m'ouvrant la porte de la cabine, vous la connaissiez déjà du temps de l'autre, ou c'est du neuf de cette année?
En réalité, pour être tout à fait... Elle m'a interrompu d'un air gourmand en me disant qu'elle ne voulait surtout pas que je la croie indiscrète. Elle attendait que je la détrompe. Je cherchais comment l'y encourager pour en savoir plus sur Alice et son compagnon, mais il fallait auparavant que je passe aux aveux, pour éviter qu'elle ne gaffe si jamais il lui téléphonait en route. J'ai recommencé mon préambule, couvert par le chien qui s'était mis à japper d'impatience dans les étages.
« Ah, il l'aime, sa 22 !» C'est à l'attendrie. Je vous laisse vous installer, j'ai rendez-vous chez le kiné. À plus tard. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Vous verrez, c'est un hôtel qui porte chance aux amoureux.
Elle a pressé le bouton 2, a refermé la grille sur moi. Le vieil ascenseur brinque-ballant qui sentait la cire et la crème solaire s'est arrêté sur un palier art déco encombré de bergères et de chaises dépareillées. Jules m'attendait au fond du couloir en grattant le battant. J'ai ouvert sa 22. Il s'est précipité dans la salle de bain, en a fait le tour en 2 secondes, m'a dévisagé avec un air de reproche. J'ai posé mon sac à dos, refermé la porte. J'étais dans une petite chambre d'enfant avec un lit de 70, une commode et une table sous la fenêtre vue mer. Un rideau rayé la séparait de la suite parentale où un king size à couette jaune faisait face à une porte-fenêtre au balcon protégé par un auvent à colombage. Un goéland juché sur l'une des 2 chaises de jardin a soutenu mon regard, l'air chez lui, comme si je lui apportais un room service. Jules a surgi dans mon dos, s'est mis debout contre la vitre en aboyant pour le faire déguerpir. Le goéland l'a toisé sans broncher, dépliant brièvement ses ailes de 3 ou 4 centimètres, comme on hausse les épaules. Je les ai laissés dialoguer et je suis retourné dans la chambre d'enfant. On toquait à la porte. J'ai ouvert.
« Bonjour, monsieur !»
a chantonné une femme de chambre hors d'âge. Elle est entrée, toute pimpante, avec une gamelle qu'elle est allée poser directement dans la salle de bain.
« Et bonjour, Jules ! Ça fait plaisir de te revoir !»
Déboulant de la chambre, il s'est jeté sur la part de bœuf aux carottes qu'il a boulotté en 10 secondes, au pied du lavabo. J'ai demandé à la dame s'il restait une chambre libre.
« Oh ben non, monsieur, on est toujours complet à cette période. Bonne soirée, bon séjour !»
Dès que la porte s'est refermée, je suis allé m'allonger sur le grand lit d'à côté. La fatigue et les émotions de la journée ne me laissaient plus qu'une envie. Fermer les yeux, faire le vide, dormir 12 heures. De toute manière, je ne voyais pas d'autre solution que de squatter cette chambre et de la libérer demain en fin de matinée. Les femmes de ménage effaceraient les traces de ma nuit, et Alice trouverait, en arrivant à la réception, un petit mot lui annonçant que son chien l'attendait dans la 22. J'aurais laissé mon nom, mon numéro de portable et un bref résumé des événements qui m'avaient conduit jusqu'ici. Ensuite, advienne que pourra. Jules est monté sur le lit, m'a repoussé à coups de museau dans les côtes pour que je roule à l'autre bout du matelas. Puis il s'est étendu de tout son long en creusant l'oreiller. J'en ai conclu que je lui avais pris sa place. Monsieur dormait du côté gauche. Exilait-il l'amant de sa maîtresse dans la chambre d'enfant, comme le faisait ma mère avec son Jean-Christian quand il se mettait à ronfler? Je me suis entendu demander « Qu'est-ce que je vais devenir, Jules ?» Il a poussé un gémissement de bien-être en s'étirant. Une patte arrière a touché mon mollet et je me suis laissé gagner par son optimisme. Après tout, je n'avais qu'à me trouver une Quechua XL2 à 110 euros, comme celle que j'avais offerte à un sans-abri quand j'avais emménagé rue des Thermopyles. J'irai camper sur la colline et le jour, je m'installerai dans un café pour travailler en rechargeant mes batteries. Même si mon téléphone restait muet, même si Alice faisait l'impasse sur moi pour ne pas rendre jaloux son compagnon, j'aurais gagné des illusions de vacances avant de reprendre mon destin en main dès la rentrée. Tout à coup, Jules a sauté du lit, s'est retourné pour que je le suive. Comme je ne bougeais pas, il a foncé dans le rideau de séparation. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Il avait dû peser avec ses pattes sur le bec de canne. Pratique, un chien qui va faire ses besoins tout seul. J'ai fermé les yeux en cherchant le sommeil. 20 secondes plus tard, son halètement m'a fait sursauter. Il tenait sa laisse entre les dents, me l'a déposée sur la main droite. Il m'emmenait promener. J'ai senti les larmes envahir mes yeux. Jamais personne ne s'était ainsi occupé de moi. Les remugles du bœuf aux carottes m'ont rappelé que je n'avais rien avalé depuis le petit déjeuner, et j'ai accepté son invitation. La pluie s'était arrêtée, une lueur gris-orangée nimbait le ciel entre les nuages. Il m'a conduit sur les planches, s'est arrêté devant les délices du pays d'Auge, où il était aussi connu qu'à l'hôtel.
« Comme d'hab !» lui a demandé la marchande de glace.
Elle a tassé dans un cornet 3 boules chocolat caramel fraise et l'a déposée dans la gueule du labrador qui, debout en appui sur le comptoir, avait incliné la tête de côté pour ne pas renverser la glace. Il a ripé sur ses pattes avant en se tournant vers moi, m'a offert le cornet. J'aurais préféré du salé, mais je n'ai pas voulu le décevoir. Je suppose qu'il répétait avec moi un rituel de vacances, entre Alice et lui. J'ai décroché de ses dents le cône en biscuit à peine mordillé, et je me suis poliment régalé à voix haute, tandis que la marchande lui composait le même assortiment. Nous sommes allés nous poser sur un banc où j'ai admiré sa technique. Allongé sur le côté, maintenant contre son poitrail l'extrémité du cornet entre ses pattes croisées, il attaquait les boules à coups de langue, tant qu'elle dépassait du cône. Puis il a englouti le reste de la glace en rejetant la tête en arrière. Occupé à se lécher les babines, il a attendu que j'aie fini mon cornet. Alors, il m'a redonné la courroie de sa laisse, et on a continué notre balade sur les planches, face aux raffineries du Havre qui cassaient l'horizon de cartes postales. Après les grilles du club de tennis, les villas se faisaient plus cossues, de véritables manoirs avec leur accès direct sur le sable. Ce serait un rêve pour moi d'habiter à l'année une chambre de bonne sous ses combles à colombage. Le prolongement de masse malade et thermopile, où je mettrais la touche finale à mes découvertes qui changeraient le monde, ces découvertes qui n'ont eu d'autre effet jusqu'à présent que de creuser mon découvert. de la fabrication de plastique au moyen d'algues brunes, à la transformation des bactéries en agents dépolluants, de la récupération de l'énergie des trous noirs pour propulser les fusées, à l'invention des plantes médicinales prêtes à traire, je suis à la tête d'une trentaine de brevets dont la protection m'a mis sur la paille et qui laisse de marbre tous les chefs d'entreprise à qui je les présente. Mon problème a toujours été à la fois le manque de moyens et l'absence de limites. Tout m'intéresse, tout me disperse et tout me ruine. C'est pourquoi je temporise. Grâce à Jules, grâce à l'élan dévastateur qu'il a redonné à ma vie en quelques heures, je ne suis déjà plus un raté. Je le sens. Condamné désormais à réussir l'impossible sans position de repli, je vais redevenir le conquérant bédouin qui, pour épater sa mère adoptive, partait à l'assaut du collège, des classes prépa, des grandes écoles, et réussissait tout, avant d'être laminé par une trahison amoureuse. C'est derrière moi tout ça. L'immobilisme, la petite survie au jour le jour. Je vais me refaire un cœur, une réputation, un avenir, en lieu et place de cette belle sérénité bouddhiste qui anesthésie mes échecs, mais me laisse végéter pour rien. J'ai confiance en mon destin à nouveau. C'est moi que le chien a choisi, même si Alice a un autre homme dans sa vie. Un homme qui, peut-être, n'aime pas les bêtes, et lui a dit que ce serait Jules ou lui. Eh bien non, ce sera Jules et moi.
Il est 19h, donne un haut-parleur. C'est la fin de la surveillance et la fermeture de l'établissement des bains. Nous vous souhaitons une excellente soirée.
Aussitôt, Jules m'arrache sa laisse et fonce vers la mer, imité par une dizaine de congénères interdits de plage aux heures ouvrables, comme le stipulent d'innombrables panneaux triangulaires, rayant d'une croix la jante canine. Je le regarde batifoler dans le sable avec des boxers, des dogs, des bergers et d'autres races non identifiées qui l'escaladent de bon cœur. Retrouvailles estivales, reniflettes mutuelles, bagarres ludiques et courses à fond de train dans les vagues. Son bonheur insouciant me redonne soudain le cafard. Suis-je vraiment autre chose qu'un prestataire à ses yeux? Un intermédiaire entre Alice et lui? Un livreur qui se croit l'objet de la livraison? Les rares baigneurs qui ont résisté au crachin replient leurs affaires. La marée sera haute dans une heure, indique le tableau magnétique sous la tour de contrôle 1930 qu'ont évacué les maîtres nageurs sauveteurs. Dernier humain sur la plage avec moi, un vieux monsieur très droit en pantalon de flanelle, chemisette de garçonnet et bob lavande, trace à reculons, par de lentes foulées régulières, de grandes figures géométriques du bout de sa bêche à sable. Circonférence impeccable montée en collier, telle des perles de différentes grosseurs encadrant des spirales et des structures en hélice. Vu du ciel, ça doit être magnifique. Je m'approche pour apprécier la finesse, la précision du tracé. Il s'arrête, la bêche en suspens, défie du regard une vaguelette qui vient lécher le pourtour d'un cercle. Quand elle se retire, il incline la tête en signe de remerciement. Mon labrador arrive au galop, stoppe net en bordure du collier de sable. Le vieux monsieur lui adresse un sourire bienveillant, tout en touchant du doigt son bob.
« Le bonsoir, ami Jules. On est déjà en juillet, alors ?»
Il y a dans sa voix creuse un fond d'allégresse machinale qui compense le poids des ans. La marque des solitaires gouvernés par une œuvre, un ailleurs ou une foi.
« Et qu'as-tu fait de la gentille Alice ?»
Jules s'est couché à l'extérieur du dessin, face à la mer, dans une posture de sphinx, comme s'il voulait défendre l'ouvrage. J'ai répondu pour lui. Le dessinateur m'écoutait en hochant la tête. L'annonce de la cécité guérie par une greffe de cornée l'a rendu triste. Il a soupiré les yeux au sol.
Au moins, le rêve de quelqu'un se sera réalisé.
J'ai suivi son regard rivé aux courbes extérieures qui commençaient à se déliter sous la montée des eaux, malgré les aboiements dissuasifs de notre chien de garde. J'ai dit « C'est très beau ce que vous faites.
Chaque jour, je m'efforce à l'identique »,
a-t-il répondu sur un ton qui n'avait rien de modeste.
« Je lutte contre le temps, les rhumatismes, la main qui tremble. Il faut bien. »
« C'est votre métier ?» métier, a-t-il répété comme s'il cherchait le sens du mot. Vous êtes artiste?
Non, technicien de surface. L'humanité n'a plus d'intérêt pour moi, j'essaie de communiquer avec des forces intelligentes, a-t-il ajouté en me quittant des yeux pour scruter le ciel d'un air vexant.
J'ai pensé aux crop circles, ces destructions végétales géométriques réalisées dans les champs par des plaisantins, des militaires ou des extraterrestres, suivant les explications qui s'affrontent périodiquement dans les médias.
Et ça marche ?
Il m'a rendu mon regard avec une résignation accablée.
« À votre avis ? » a-t-il demandé en désignant la marée qui laminait son chef-d'œuvre.
« Et vous leur dites quoi à ces forces intelligentes ?»«
De revenir me chercher. »
J'ai marqué un petit temps qu'il a dû interpréter comme une forme de respect, car il m'a considéré avec une sympathie accrue. J'ai risqué du bout de la voix.
« Vous faites allusion aux ovnis ?»«
Si vous préférez parler du contenant, oui. »
Ils m'ont enlevé quand j'avais 9 ans, le temps d'une nuit.
Je ne me souviens de rien, mais depuis je m'emmerde.
J'ai dû être en contact avec une civilisation tellement plus intéressante.
Je me suis dit que j'avais affaire à un doux illuminé, un ufologue amateur qui allait rapidement me gonfler, et je me suis mis à lui parler astrophysique pour qu'il comprenne que je n'étais pas le confident idéal en matière de petits hommes gris tombés du ciel. À ma grande surprise, il m'a répondu sur le même terrain. Trous noirs, multivers, défauts spatio-temporels, théorie des cordes. Il était d'un niveau assez comparable au mien, peut-être même supérieur.
J'ai travaillé 40 ans à l'Observatoire du Pic du Midi, comme nettoyeur de lentilles. Je me suis instruit sur le tas par osmose, au contact de tous les grands génies confinés avec moi sur le site. Mais je n'ai jamais rien vu d'intéressant. Même au Gentilly, le télescope de 106 cm. Aucun ovni, aucune trace de peuplement extraterrestre dans le système solaire, aucun indice d'une volonté d'entrer en communication avec nous, aucun alignement de planètes correspondant à cela.
Il a soulevé sa chemisette. De vagues rougeurs brunâtres parsemaient sa poitrine, taches de naissance ou maladie de peau. On pouvait y voir, en dépit des poils blancs et des replis de l'épiderme, une vague ressemblance avec les figures circulaires qu'il avait dessinées dans le sable.
« C'est tout ce qu'ils m'ont laissé », a-t-il commenté.
« Est-ce un marquage, une signature, un modèle à transmettre ? Je n'ai jamais su. Alors, depuis que je suis à la retraite, je m'efforce de reproduire le dessin à grande échelle pour me rappeler à leurs bons souvenirs. Qu'ils sachent où je suis et que je demeure à leur disposition, s'ils le souhaitent. Il ne faudrait pas trop qu'ils tardent à présent, je vais sur mes 80 ans. Mais peut-être ils ne s'intéressent qu'aux jeunes, eux aussi. »
L'eau a touché ses mocassins. Sans bouger, il a poursuivi sur le même ton.
« Ou alors, ils n'existent pas, ils sont le produit de mon imagination. » Tout droit sorti du roman de Lovecraft que j'étais en train de lire, la nuit où la Gestapo a enlevé mes parents. Moi aussi, dans la cave où ils m'avaient planqué, j'aurais tant voulu qu'on vienne me chercher. Mais pas les Allemands. Ce sont nos rêves impossibles qui gouvernent nos vies, vous ne croyez pas ?
Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais Jules qui avait renoncé à défendre l'ouvrage et se roulait gaiement dans les vagues ennemies avec une impudeur de collabo. J'ai fini par glisser.
Et les marques sur votre peau ? Bah, ce sont peut-être des stigmates qu'elles se fabriquent, comme les chrétiens qui revivent dans leur chair la passion du Christ, plaie au côté, saignement, trou de clou, autosuggestion. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je pense que l'homme est mauvais, qu'il n'a créé que le diable. Quelque part dans le cosmos, j'espère qu'il existe une autre forme d'humanité qui vaut la peine.
Il a sorti un mouchoir pour nettoyer sa bêche. Il a conclu avec un demi-sourire.
Dans le doute, je continue à signaler ma présence dans le sable.
Les journées passent plus vite, ça fournit des sujets de conversation aux vacanciers, et ça me conserve une certaine souplesse, en dépit de l'arthrose. Et vous ?
En reculant pour se mettre au sec, le vieil homme a précisé le sens de sa question.
« Que faites-vous avec le cosmos ?»«
Rien. » Tandis que la marée achevait de détruire sa journée de travail, je lui ai raconté la poubelle de mes origines, mon régime porcin contre les algues vertes, le vol du brevet par Gwendoline, les bactéries, les plantes à traire, les macarons, mon coup de foudre pour Alice, mes projets d'avenir, cette nuit au Flaubert et demain sous la tente. Il me regardait à présent avec un franc sourire qui lui donnait 20 ans de moins. J'étais devenu pour lui un extraterrestre adoptif, un voisin de chimère, un frère de sable. Et je dois reconnaître que je n'avais pas rencontré d'interlocuteur aussi compréhensif depuis ma directrice de thèse en génie biologique à Créteil, celle qui m'avait mis sur la piste des bactéries du yaourt, mais n'avait pas voulu divorcer pour que je l'épouse. Jules gambadait autour de nous, content de nous voir copiner. Il nous rapportait de temps en temps un bout de bois pour se rendre utile, le déposait à nos pieds et attendait patiemment, sans nous interrompre, que l'un de nous deux le lui lance dans la mer. Était-il possible que le but du voyage où il m'avait entraîné fût non pas de retrouver Alice, mais de rencontrer cet homme? Quand le soleil s'est glissé sous les nuages barrant l'horizon, le traceur de cercle m'a informé qu'il s'appelait Maurice Bloom et nous a invités à dîner chez lui. J'ai décliné courtoisement, mais son doigt tendu vers les planches m'a fait changer d'avis dans l'instant. Jules, qui paraissait connaître les lieux, était déjà parti en éclaireur et nous attendait, 100 mètres plus loin, devant la villa Mariposa, l'une des plus belles maisons de la plage. Un manoir en briques roses et pierres blanches, avec une tour d'ardoise pointue comme un crayon d'architecte. Nous avons monté les 6 marches de l'escalier vermoulu planté dans le sable. En ouvrant une porte au rez-de-jardin, Maurice m'a retracé l'historique du lieu. C'était une propriété de famille que son grand-père rentier avait vendue à la découpe pour rembourser ses dettes de jeu. Il lui restait 2 pièces à l'entresol et le sommet de la tour. On s'est assis sur des sièges en rotin, dans un living à meurtrières et papier peint ancestral où flottait une intense odeur de solitude, mi-naphtaline, mi-salpêtre. Entre les photos de ses parents gazés à Auschwitz et le portrait de son épouse disparu dans un gouffre du pic du Midi, nous avons dîné de chips au paprika, truites fumées Monoprix, babybel périmée et compote en tube, le tout arrosé de cidre local. Mais la gentillesse sans effort et la culture autodidacte de notre hôte parvenaient bizarrement à égayer l'atmosphère. Sous la grosse télé habillée de formica, Jules rongeait un os en caoutchouc musical avec lequel il semblait avoir une longue intimité. Après le café soluble allongé au calvin, notre hôte a sorti d'un placard une lampe torche.
« Mon pigeonnier, » a-t-il murmuré en me l'attendant comme un saint Graal, « j'y ai vécu les plus belles heures de ma jeunesse, à guetter les étoiles, mais je ne peux plus y grimper avec l'arthrose. Allez voir si c'est encore habitable. En cas... vous seriez mieux que sous la tente, non ? »
Désarçonné par la gentillesse de ce vieil enfant fossilisé, je suis monté au dernier étage de la tour. Une porte moisie donnait dans le pigeonnier auquel on accédait par une échelle de meunier. Jules est passé le premier avec une agilité confondante pour sa taille. Cerné de craquements et de poussière soulevée par les courants d'air, j'ai débouché, à la lueur de la torche, dans 6 mètres carrés de charpente à couper le souffle. 4 lucarnes s'ouvraient sur la Manche, sur Deauville, Le Havre et les châteaux parsemant les hauteurs de Trouville. Une vue à 360 degrés, dans la clarté lunaire et le gémissement du vent. Seul mobilier, une table ronde sous une lampe tempête à pétrole, une vieille chaise en tapisserie trouée par ses ressorts, un lit de camp en équilibre précaire entre les pannes et les poteaux de chêne. Le carreau cassé au nord et les boulettes de régurgitation jonchant le sol suggéraient la présence intermittente d'une chouette. Perspective de cohabitation qui n'a guère entamé mon enthousiasme. Le labrador guettait mes réactions avec la discrétion vigilante d'un agent immobilier. Il est redescendu derrière moi en remuant la queue.
« Je ne ferme jamais ma porte », a précisé Maurice. « Vous pourrez profiter de ma salle de bain à marée basse. »
Autrement dit, pendant les heures où il dessinait des cartes postales dans le sable. On l'a quitté un peu avant minuit. Je croyais tomber de sommeil, mais à peine entré dans la chambre 22, je me suis attablé sous la fenêtre et j'ai écrit à Alice le récit de ma journée avec son chien. 6 brouillons plus tard, j'ai rejoint notre guide endormi sous la couette king size, où j'ai profité de ma dernière nuit de confort avant d'aller jouer les ermites de la tour. Le nez dans l'oreiller, m'imprégnant du parfum citronné de l'assouplissant pour oublier l'épée qui s'échappait du sommeil de Jules, j'ai rassemblé mes images d'Alice pour rêver d'elle, partager son intimité dans ce lit de vacances où le lendemain, elle ferait l'amour avec un autre. Je me superposais. Je devenais l'autre, le remplaçais sans qu'elle s'en aperçoive, tellement elle avait fantasmé sur moi depuis Orly. Soyons optimistes. Le chien m'a réveillé à 8h20, trempé, couvert de vases, d'algues et de goudron. Seul souvenir de ma nuit, un cauchemar où il grattait avec fureur la terre d'un cimetière pour exhumer un corps. De la fosse creusée par ses soins, les croque-morts retiraient une poubelle avec une fente pour le courrier. Julie glissait ma lettre à Alice.
Vous la lui donnerez vous-même, me conseille la patronne du Flaubert, en retirant mon enveloppe de la case 22 où je l'ai déposée en même temps que la clé.
Je viens de lui raconter mon histoire par le menu, pendant que Jules se fait toiletter chez Vanity Dog, rue des Bains. L'hôtelière ira le chercher et le fera patienter jusqu'à l'arrivée de sa maîtresse. Je préfère nous éviter la grande scène des adieux.
Quel dommage quand même, si c'est pas du gâchis. Soupire l'ample normande en me pétrissant le genou sur les coussins en chintz du bar jouxtant la réception.
Encouragé par son parti pris manifeste, et j'essaie d'en savoir plus sur la personne qui partage la vie d'Alice.
« Je ne tire jamais sur les ambulances, » répond-elle d'un ton définitif en me resservant une tasse de café.
« Chacun vit comme il veut. De toute façon, vous n'êtes pas vilain, allez, vous trouverez vite chaussures à votre pied. »
La podologue du cœur me congédie d'une tape gaillarde sur la cuisse, refusant à mon grand soulagement que je paye la nuitée, le petit déjeuner et le toilettage du chien.
« Je l'ai mis sur sa note, elle vous doit bien ça, hein ? Je vous laisse un texto si je sens une ouverture. « Ok ?»
Sac au dos et l'humeur en dents de scie, je quitte le Flaubert sous un soleil frisqué et je descends les planches jusqu'à la villa Mariposa. Maurice doit faire la grasse matinée. Ses volets sont fermés et la marée encore trop haute pour lui. Les bronzeurs occupent tout le sable disponible. J'emprunte un aspirateur au gardien et je monte installer mes affaires dans le pigeonnier, qui mériterait davantage l'appellation de chouettière. Au bout d'une heure de ménage, mon refuge baigné de lumière a fière allure. Je viens de remplacer le carreau cassé par une feuille de plastique quand Jules déboule par l'échelle de meunier. À nouveau plein de sable et parsemé d'algues par-dessus le brushing de Vanity Dog, il me gratifie d'un bref câlin anxieux avant d'aller se coucher en version compacte sous la table ronde. Un bip amène mon regard sur l'écran du smartphone où vient de s'afficher un texto de l'hôtelière. « Il n'est plus dans la chambre, il est avec vous ?» Inutile de se demander pourquoi il s'est sauvé du Flaubert. Le trac. La peur d'affronter tout seul sa maîtresse, qu'il a déjà abandonnée une fois alors qu'il n'avait rien fait de mal. Je me vois soudain sous un autre jour dans son regard. Je suis un cadeau, un prétexte, un cache-misère, un tableau de chasse. Il lui rapporte un homme pour se réintroduire en douce dans son foyer. Il ne doute pas de moi, lui. En bon dominant qui s'octroie sans effort la femelle d'un plus faible, il m'identifie à lui. Il me fait confiance pour remplacer le type de la 22 que décidément personne n'a l'air d'aimer. Sauf que, moi je suis un rejeté de naissance, mon Jules. On ne fonctionne pas de la même manière. Je me fais discret dans ma cachette et j'attends mon heure. C'est toi que j'envoie en première ligne. » Je prends sa laisse, je le redescends et je tente de le tracter sur les planches en direction de l'hôtel. Mais il a senti le coup fourré. Ses griffes coincées dans les interstices, il freine des quatre pattes.
« Un souci ?» s'inquiète Maurice qui part dessiner la bêche sous le bras.
Je lui décris le problème. Il me dissuade d'insister.
« Vous irez le remettre à Alice en main propre quand elle sera arrivée au Flaubert. Suivez son instinct. Il la connaît mieux que vous. »
Sans attendre mon avis, il détache la laisse du collier. Jules fonce comme un boulet se planquer dans la tour. Résigné, je rassure l'hôtelière par un texto, lui demande de me prévenir dès l'arrivée d'Alice. Je lui ferai la surprise.
« Et sinon, s'informe Maurice, vous êtes bien installé ?»«
Oui, c'est parfait. Merci encore. Si vous aviez juste un ou deux yaourts... » Comme je lui ai raconté la veille mes travaux bactériens, il s'empresse de sortir de son frigo les deux pots qui lui restent. Vitamia, goût vanille.
« Ça conviendra ?»«
Absolument. Il y a beaucoup de monde dans cela. »«
Ah oui ?»«
Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus, entre autres. Les bactéries vivantes les plus réceptives. »«
Elles vous répondent ?»«
Elles réagissent à divers stimuli, oui. » Il me contemple avec un brin d'envie, soupire.
« Vous avez de la chance. »
Et pêche à l'épaule, il part donner de ses nouvelles aux indifférents du cosmos.